Salut, moi je m'appelle Safia.
Bonjour, je m'appelle Athénaïs.
Coucou, je m'appelle Asia.
Salut, je m'appelle Edina.
Moi c'est Rebecca.
Bonjour, je m'appelle Maïsan.
Salut, je m'appelle Faïza.
L'émission sur l'Asie
par les enfants de l'école des Arbelles.
Bonjour, vous êtes sur Radio B,
les bonnes ondes.
Aujourd'hui, les enfants de l'école des Arbelles s'invitent au micro.
On va vous faire voyager en Asie.
Découvrez notre lecture d'un conte vietnamien.
Révisez votre géographie avec nos quiz.
Et apprenez-en plus sur les massages thaï grâce à notre invité.
L'émission sur l'Asie, sur Radio B.
Notre première destination est la Thaïlande.
Alicia et Rodolphe sont en studio avec nous.
Bonjour Alicia.
Bonjour.
Pour commencer, peux-tu te présenter?
Oui, je m'appelle Alicia. Voilà, Alicia Kamchantara. Voilà, je un salon de massage thaïlandais. Voilà, dans Centre Ville.
Peux-tu présenter ton salon de massage?
Oui, je salon dans Centre Ville. Voilà, on a 4 tables de massage. Voilà, on fait le massage thaï traditionnel. Thaï, collection Osfin, réflexologie plantaire et massage tombon chaud et pierre chaude et ventouse.
Pourquoi il était inventé?
Je vais me permettre d'intervenir et aider un petit peu Alicia sur cette question-là. Moi, je suis son compagnon Alicia. Donc, j'ai appris à travers elle un peu les massages thaï, un peu les origines, etc. Donc, le massage thaï, pour répondre à la question, il est né à peu près il y a 2500 ans en Inde. Bizarrement. Et au début, c'était le docteur Jivago, Bouka, etc. Enfin, donc comme ça. Et puis, en fait, c'est un des précurseurs de la, considéré comme un des précurseurs de la médecine traditionnelle en Asie. Et puis, petit à petit, il a amené dans la région du Siam ses méthodes. Et le Siam, qui était anciennement la Thaïlande. Le royaume du Siam, c'est la Thaïlande. Donc, à partir de 1455, à peu près, 1455, la Thaïlande. Le roi Rama I, il a, sur le site de Ayutthaya, qui est un grand temple, un très vieux temple thaïlandais, il a commencé à enseigner un petit peu à tout le monde, à des scientifiques de l'époque, évidemment, hein, en Thaïlande, les méthodes du docteur Jivago, indien. Et puis, petit à petit, ça s'est popularisé, développé, pour devenir un véritable art thaïlandais. Et aujourd'hui, pratiquer comme une médecine traditionnelle thaïlandaise, ça fait vraiment partie des méthodes de médecine en Thaïlande, qui sont tout à fait intégrées à la population, à la société. Donc c'est reconnu comme un art thérapeutique en Thaïlande. Et donc voilà comment c'est né, les familles pratiquent. Un petit peu, quand on voit un petit peu en Thaïlande, on voit bien que un petit peu tout le monde, tous les membres de la famille ont des techniques de massage thaï. Ils subissent masse comme ça entre eux. À l'hôpital, on retrouve aussi des gestuels de massage pour détendre, pour les émotions, ce qu'elle vous a un petit peu expliqué, Alicia. Donc voilà, naissance du massage thaï aux alentours de 1455 dans sa forme actuelle avec des développements.
Quels différents massages proposes-tu?
La différence, c'est le massage thaï, peut-être c'est un petit peu tonique. Et le massage thaï, collection au suin, on masse tout le nez, voilà. Mais le thaï traditionnel, peut-être c'est bouang, pak, bouang. Voilà. Le massage thaï, c'est comme le yoga. Appuyer, tirer, voilà. Et le massage au suin, c'est on masse tout le nez, tout le bouang. La pierre chaude aussi, le tombon chaud aussi, et la ventouse aussi. Mais on masse après la séance de massage, voilà. C'est pour débloquer plus.
Et juste pour compléter pour Alicia,
ouais.
Les massages pierre chaude, tampon chaud, donc elle propose, et puis les ventouses, ça aide aussi à améliorer largement les circulations. Les circulations, donc sanguines, et puis lymphatiques. On a si vous savez ce que c'est lymphatique, on vous apprendra, il n'y a pas de problème. On pourra développer ça. Mais en fait, voilà, c'est pour améliorer largement les circulations des liquides, des liquidiennes, donc lymphatiques et sanguines également. Donc il y a différentes techniques. Et Alicia n'a pas parlé de la réflexologie plantaire, elle ne l'a pas trop développée, mais elle le propose aussi. Réflexologie plantaire, c'est on appuie sur différents points qu'elle connaît bien et qui correspondent à certains organes et qui vont débloquer certains points. En fonction de ce qu'elle touche, ça va débloquer ou améliorer les circulations et puis améliorer un petit peu développer des énergies là où il en faut.
Tu peux nous apprendre des techniques de massage?
Oui.
On a amené des petites cartes, alors à la radio, c'est pas visuel. Donc il y a différents points à toucher. Donc elle travaille, Alissa, par digitopression, digito pour les doigts, digital. Tac, elle appuie sur un ensemble de points qu'elle connaît. Et puis, donc c'est vraiment par digitopression le massage thaïlandais. Hein, fait avec les doigts. Il y en a qui utilisent des masseuses qui préfèrent utiliser les pieds parce qu'il y a trop de tension, parce que voilà. Il y en a qui utilisent également des petits bâtons, je ne sais pas le nom, Alissa, donc pour s'aider à appuyer un peu plus profondément ou plus précisément.
Quels sont les bienfaits de ces massages?
Pourquoi ça fait du bien? Parce que c'est, parfois, c'est, on a beaucoup le stress, voilà. On a beaucoup le fatigué, on a beaucoup le... comment dire? Toutes les activités qui ont passé dans la vie, voilà. Ils sont tendus, ils sont bloqués. Si on est bloqué avec le massage, là, on est bloqué tout le point, tout le méridien, tout le muscle. Ça va circulation, ça va aider tout le nez, tout le corps, voilà. Si on est bloqué tout le nez, tout le corps, ça va soulager. Ça va enlever toute la tension, tout ça, voilà.
Comment as-tu appris à faire des massages?
J'ai appris dans l'université en Thaïlande de sang, voilà, c'est comme kiné, comme ostéopathe, comme ça. Mais nous, on apprend à. Si de sang, c'est enseignant, on apprend toute l'anatomie. Après un an, je pratique, voilà. En Thaïlande, on peut apprendre dans l'université, voilà. De sang, c'est enseignant, 4 ans, c'est infirmière. C'est la même enfance.
Pourquoi avoir voulu ouvrir un salon de massage à Bourg?
Parce que je voulais aider. Personne qui, parfois, c'est comme parfois, on a, comment dire, on soigne avec le médicament. Toujours, c'est avec des médicaments, c'est pas bien. Si on soigne avec le massage, ça va aider beaucoup, voilà.
Où tu as grandi?
Je suis grandi dans la province à Builam. C'est à côté frontière de Cambodge, 400 km de Bangkok, capitale thaïlandaise.
Retournes-tu en Thaïlande parfois?
Oui. Je suis partie une fois par an, voilà, en Thaïlande. Parfois deux fois.
As-tu un monument remarquable à nous conseiller en Thaïlande?
Oui, Ayutthaya, c'est ancien la capitale de Thaïlande, voilà, Ayutthaya. Après Ayutthaya, il y a tout. Il y a les tombes qui sont anciennes, les temples. C'est joli, voilà, c'est ancien, il y a tout.
Tu peux nous citer des plats typiques thaïlandais?
Les plats que je présentais, c'est pad thaï. Pad thaï, ok, vous pouvez manger même que les enfants, les grands, tout ça. Et pad thaï, il y a le cacahuète, il y a le vin, il y a le nouilles, c'est ça? Mais c'est le produit de Thaïlande, voilà. Et après, il y a de l'ail. Il y a le sauce, je ne sais pas, sauce soja. Il y a le... c'est quoi français? C'est comme ciboulette thaïlandaise, voilà. Après, on met à la fin.
Quel sport pratique-t-on en Thaïlande?
Sport pratique en Thaïlande, c'est pour... c'est les gens qui connaissent, c'est la boxe thaïlandaise.
Merci Alissa et Rodolphe d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Merci Alissa et Rodolphe d'avoir répondu à nos questions.
Safia, si tu pouvais aller en Asie, tu irais où?
J'irais en Chine. Et toi?
J'irais aussi en Chine.
Moi, j'irais au Japon.
Moi, au Japon.
Et vous, auditeurs, où iriez-vous?
Pour le savoir, nous avons réalisé un micro-trottoir.
On découvre ça?
Décollage! Quel pays aimeriez-vous visiter en Asie?
J'aimerais beaucoup visiter le Japon, car je trouve que c'est un très beau pays. Il m'attire beaucoup.
J'aimerais retourner au Vietnam et faire le sud du Vietnam parce que j'ai visité le nord.
Je visiterai, je pense, la Thaïlande.
La Russie.
Du coup, le Vietnam, la Birmanie et puis le Cambodge surtout. Et le Japon aussi.
J'aimerais bien visiter le Japon et la Chine.
Ah, j'en ai déjà fait plusieurs en Asie, mais j'aimerais bien aller en Indonésie parce qu'il y a plein d'îles et...
La Corée du Sud.
Retourner en Inde, c'est tellement grand, on peut faire un autre coin.
La Malaisie.
Qu'est-ce qui vous attire dans ce pays ?
La culture qui est différente de la France, voir comment les écoles sont faites, quel est leur modèle d'éducation, donc voilà.
La nature, mais surtout la nourriture.
Bah, moi, j'aime bien l'art asiatique, tout ce qu'ils font, c'est très joli.
Pour changer les autres pays, parce qu'il y a des autres choses à voir qu'au l'Europe et tout.
C'est un pays qui m'attire beaucoup, les traditions aussi. Il doit y avoir plein de choses chouettes à visiter.
Les vêtements, j'aime bien les vêtements super colorés des Thaïlandaises.
La muraille de Chine.
La culture, la grandeur du pays, enfin leur méthode de travail, tout ça.
L'architecture.
Le respect des gens. Les paysages, les animaux, la nourriture.
J'aime bien, genre, à ce qui paraît, ça a les débits internet les plus rapides. J'aime bien la culture et j'aimerais bien voir la zone démilitarisée avec la Corée du Nord.
Là-bas, parce que c'est plein de petites îles, donc c'est vraiment un endroit où il fait beau, c'est paradisiaque, il y a moyen de faire du bateau, la plongée.
Je ne connais pas, donc la découverte.
La nourriture, la nourriture
la culture aussi.
Le paysage.
C'est parce que ma femme, elle est coréenne.
La culture, la nature...
L'art, ouais, la gastronomie aussi,
oui.
Les traditions.
Alors honnêtement, on y est allé parce que nous avons un fils qui habitait en Asie. Et sinon, je suis ouverte aux autres cultures, voilà, donc tout me paraît intéressant.
À présent, auditeurs, c'est à votre tour de jouer avec nous.
On continue notre voyage avec la première partie de notre quiz.
C'est parti !
C'est l'heure du quiz
sur Radio B.
Bonjour à tous.
Vous êtes bien sur Radio B.
Je m'appelle Athénaïs.
Et moi, Edina.
Moi, c'est Faïza.
C'est l'heure de notre quiz sur les pays d'Asie.
On commence avec le Japon.
Au Japon, les mangas sont l'équivalent de nos bandes dessinées. Ils sont dessinés en noir et blanc et se lisent de droite à gauche. Pouvez-vous me citer le manga le plus populaire ? C'est One Piece, une histoire avec des pirates. Plus de 500 millions de tomes ont été vendus à travers le monde entier.
Waouh, ça fait rêver ces histoires de pirates. As-tu une deuxième question à poser à nos auditeurs ?
J'ai une devinette. Au Japon, les démons sont appelés les yokai. Je vais vous en décrire un. Arrivez-vous à retrouver de qui il s'agit ?
C'est parti.
Je suis l'un des yokai les plus connus. On me sépare entre deux classifications. Je peux être bienveillant si je suis de type Zanko, mais espiègle, voire malicieux si je suis de type Yako. Je peux avoir jusqu'à 9 queues en fonction de mon âge ou de ma puissance. Qui suis-je ? Je suis le Kitsune, ou esprit renard en français. On me retrouve beaucoup dans les cultures populaires japonaises. Par exemple, dans le manga Naruto, je suis le démon enfermé dans le héros.
Merci Athénaïs pour ces informations. Pour terminer, as-tu un dernier mot à nous dire en japonais ?
Sayonara ?
Et ça veut dire quoi ?
Au revoir !
On continue ce quiz avec des questions sur la Thaïlande.
Quelle est la capitale de la Thaïlande ?
C'est Bangkok.
C'était une question facile, mais savez-vous combien y a-t-il d'habitants à Bangkok ?
Petit indice, à Paris, on compte près de 2 millions d'habitants.
Environ 11 millions de personnes vivent à Bangkok. C'est autant que Berlin, Madrid et Rome réunis. C'est pourtant les trois villes les plus peuplées de l'Union européenne.
Et pour finir, nous avons une devinette. Je suis l'un des temples les plus connus de Bangkok. J'abrite une statue de Bouddha couchée de 43 mètres de long sur 15 mètres de haut. Je suis située juste à côté du Palais Royal. Qui suis-je ?
Je suis le Wat Pho, l'un des plus grands et plus anciens temples bouddhistes de Bangkok.
À présent, il est temps de rendre le micro. C'était Edina, Athanaïs et Faiza au micro. Merci de nous avoir écoutés.
C'est l'heure du quiz sur Radio V.
Lors de notre micro-trottoir, on a croisé des personnes ayant voyagé en Asie.
Ils ont pu nous raconter l'un de leurs souvenirs.
On découvre ça ?
Avez-vous un souvenir à nous raconter de l'un de vos voyages en Asie ?
C'est très beau parce qu'il y a beaucoup de temples. Et vraiment, il y a tout un endroit, il y a une vallée des temples, c'est au bord du cours d'eau en plus. Donc on a remonté le cours d'eau.
C'était en Thaïlande, hein. On a fait une promenade sur le dos des éléphants, c'était sympa.
Je suis déjà allé en Inde, l'Inde du Sud, et c'était génial. Et ce que j'ai préféré, c'est le Kerala, une zone un peu plus sauvage.
Bah moi, je suis allée en Ouzbékistan, sur la route de la soie, qui traverse l'Europe jusqu'en Inde, jusqu'en Chine, enfin bref. Toute l'Asie centrale et donc il y a des portes de temples dans toute cette route de la soie et c'est des très beaux souvenirs, sont incroyables, c'est des très beaux temples en carreaux de céramique.
Ça donne envie de voyager, tous ces souvenirs.
Ça tombe bien, nous avons des nouvelles destinations à vous proposer.
Car notre quiz continue. C'est l'heure du quiz sur Radio V.
Bonjour, je suis Rebecca.
Et moi, Maïsan.
On continue notre quiz sur l'Asie.
On commence avec une question sur la liberté de la presse.
L'organisme Reporters sans frontières établit chaque année un classement des pays en fonction de la liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, en 2023, quels sont les trois pays où la presse est le moins indépendante ? Ce sont le Vietnam, la Chine et en dernier la Corée du Nord. Dans ces pays, le même parti est au pouvoir depuis des décennies. La quasi-totalité des médias sont contrôlés de très près par le gouvernement. De nombreux journalistes sont régulièrement arrêtés et emprisonnés.
Waouh ! Ça ne plaisante pas dans ce pays. À présent, parlons de musique.
La K-pop est un style de musique originaire de Corée du Sud. Pouvez-vous nous citer le groupe de K-pop le plus connu ? Le groupe de K-pop le plus connu est un boy band composé de 7 membres. Ce sont les BTS et détiennent plusieurs records dans le livre Guinness comme le plus de retweets sur Twitter et le plus de vues sur YouTube en moins de 24 heures.
Écoutons un extrait de leur musique Dynamite. Et maintenant, il te reste une question sur la Corée du Sud ?
Vrai ou faux, lors d'un repas en Corée du Sud, il faut éviter de planter ses baguettes dans le riz. C'est vrai, en Corée du Sud, on plante des bâtons d'encens dans le sable lors de funérailles. Planter des baguettes dans le riz peut rappeler cette tradition. C'est malvenu lors d'un repas.
Merci Rebecca pour ces informations. Rebecca, peux-tu nous dire quelques mots en coréen ?
Tatsunet kite, ça veut dire au revoir.
Bravo Rebecca !
À présent, c'est à toi, Maïsan, de nous poser des questions sur la Chine.
La mer Jaune est située entre la Chine et les Corées. Savez-vous pourquoi elle s'appelle comme ça ? C'est à cause du sable et des sédiments apportés par le vent et les fleuves voisins. Ça lui donne une couleur jaune. Le sable provient du désert de Gobi où les vents peuvent être violents.
Maïsan, tu as une deuxième question sur cette mer ?
Oui, à votre avis, la superficie de cette mer est-elle à 100 000 km², 380 000 km² ou 9 600 000 km². Elle fait 380 000 km². Les deux autres propositions étaient la superficie de la Corée du Sud et de la Chine.
À présent, il te reste une dernière question sur le fleuve de la Chine.
Le fleuve jaune est appelé Huang He et le sixième fleuve le plus long du monde derrière le Yenisei et le Mississippi. Il prend sa source sur les plateaux du Tibet et se jette dans la mer jaune. Vrai ou faux, ce fleuve est-il le plus long de Chine ? C'est faux, c'est le deuxième fleuve le plus long de Chine. Le fleuve le plus long de Chine s'appelle le Huangzijiang. Il mesure 6300 km. C'est aussi le troisième fleuve le plus long du monde.
C'est fini pour nos questions. Merci pour votre écoute. C'était Maïsan
et Rebecca.
C'est l'heure du quiz sur Radio V.
À présent, nous partons pour le Vietnam.
Voici notre lecture du conte des gâteaux succulents.
Tiré du livre « Contes et mythes du Vietnam » de Baptiste Condomier. Des gâteaux succulents. Il était une fois un vieux roi fatigué qui désirait céder son trône à l'un de ses 10 fils. Il avait régné de longues années combattant les envahisseurs du Nord et instaurant la paix dans tous les pays. Il souhaitait à l'aube de ses vieux jours prendre une retraite, tranquille, loin des affaires d'État.
Ne sachant pas lequel de ses nombreux fils était le plus prompt à gouverner après lui, il les convoqua tous à la cour.
Ce sera bientôt le nouvel an et l'occasion pour moi de quitter le pouvoir, afin que je choisisse lequel d'entre vous sera le plus à même de me remplacer. Je vous propose un défi. Vous devrez, pour les grandes festivités qui s'annoncent, offrir au peuple les meilleurs mets du pays. Le plat qui remportera mon suffrage désignera mon successeur.
Les princes, d'abord surpris par la nature de ce défi, se mirent à la tâche sans attendre. Les plus paresseux envoyèrent des émissaires un peu partout, tandis que les plus courageux prirent la route afin de trouver ou de composer les mets les plus fabuleux du royaume.
Certains d'entre eux n'hésiteraient pas à chasser des monstres mythiques pour mettre au point une cuisine extraordinaire. Viande de licorne ou dragon, gibier de phénix ou de paon, chair de poisson ou de crabe géant.
La plupart des princes déployaient des moyens considérables pour parvenir à leur fin, sauf Tiet Lu, le 18e fils, dernier des princes, le plus humble et le plus pauvre. Il n'avait répondu à l'appel du roi que par amour pour lui, son père, car il était peu intéressé par la couronne et démuni devant l'ampleur de ce concours. Alors qu'une nuit, seul dans sa chambre, il méditait sur une solution, un génie lui apparut en songe.
Rien n'est plus précieux et plus essentiel que le riz du ciel et de la terre. Pour les vivants et les morts, les jeunes ou les vieux, les animaux et les plantes, et de tout l'univers, le riz est l'aliment suprême.
À son réveil, intrigué par son rêve, Tiet Lu remua les mots dans sa tête et comprit bientôt le conseil que lui avait sagement prodigué le génie. Il se mit immédiatement à la tâche et concocta une recette simple, fabriquant des petits gâteaux au riz gluant, ronds et carrés, avec de la garniture au milieu composée de porc et de haricots et enveloppés dans des feuilles de bananier.
Quand le grand jour arriva, les 17 princes présentèrent au roi les plateaux entiers de mets incroyables et coûteux. Décorés de mille manières, Tiet Lu, impressionné par les trouvailles de ses frères, déposa modestement son plat au pied du souverain, convaincu qu'il avait déjà échoué. Mais tandis que la petitesse de son présent faisait déjà rire tous les autres princes, le roi, lui, était très intrigué par la forme et la nature de ses petits gâteaux. Il en goûta deux, un de chaque sorte, et les trouva parfaitement délicieux, bien supérieurs à toutes les savantes préparations ramenées par ses autres fils.
Quels sont donc, mon enfant, ces merveilleux gâteaux? Pourquoi ont-ils cette apparence si particulière? Quelle est ta précieuse recette?
Les gâteaux ronds, Monseigneur, représentent le ciel bien heureux qui s'étend au-dessus de nous, nous protège et nous réchauffe avec son soleil. Les gâteaux carrés sont, quant à eux, la terre nourricière qui nous offre le riz, la viande et les plantes, dont nous nourrissons les feuilles qui les entourent, symbolisant l'amour et la protection de nos parents.
Ta sagesse et ton talent t'honorent.
Tiet-lieu, en répondant à ce défi, tu n'as pas oublié nos valeurs, le respect de la famille et nos ancêtres, et la gratitude envers la terre et le ciel. Très heureux, le roi décerna aussitôt le premier prix à son 18e fils et en fit son successeur.
Sa recette fut adoptée sur le champ par le peuple et les gens de la cour, charmés par la valeur de ce nouveau plat. Depuis, à chaque nouvel an, pendant les fêtes du thé, tous les Vietnamiens préparent et dégustent ces petits gâteaux traditionnels, le bang chun et le bang dai, en offrant au ciel, à la terre et à leurs ancêtres.
C'était notre lecture de conte. Des gâteaux succulents!
Avant de nous quitter, il reste une dernière partie à notre quiz.
Dernière chance pour obtenir quelques bonnes réponses.
C'est l'heure du quiz sur Radio V.
Bonjour!
C'est Safia au micro.
Et Asia.
Nous arrivons à la dernière partie de notre quiz et nous allons parler de la Russie.
Première question.
Quelles sont les trois plus grandes villes de Russie?
C'est Moscou, Saint-Pétersbourg et Novosibirsk.
Cependant, seule la troisième se situe véritablement en Asie, non loin de la Mongolie et du Kazakhstan.
Deuxième question. Quel est le plus haut monument de Moscou?
C'est le monument à la victoire. Il se situe sur le mont Poklonaya.
Sa taille symbolise la durée d'une guerre. Un décimètre pour chaque jour qu'elle a duré.
Selon vous, quelle taille fait ce monument?
Il fait 141,8 mètres.
C'est équivalent aux 1418 jours qu'a duré la Seconde Guerre mondiale.
Notre quiz est à présent terminé.
On espère que vous avez appris des choses sur l'Asie.
À bientôt sur Radio B.
Les bonnes ondes.
C'est l'heure du quiz sur Radio B.
Notre voyage touche à sa fin.
C'était les enfants de l'école des Arbelles.
Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Salut, moi je m'appelle Safia.
Bonjour, je m'appelle Athénaïs.
Coucou, je m'appelle Asia.
Salut, je m'appelle Edina.
Moi c'est Rebecca.
Bonjour, je m'appelle Maïsan.
Salut, je m'appelle Faïza.
L'émission sur l'Asie.
Par les enfants de l'école des Arbelles.